Vous êtes dans Bienfait pour vous et la question que l'on vous adresse ce matin est la suivante. Avez-vous déjà été dans le déni? Déni d'une situation ou même d'une partie de vous? Vous pouvez témoigner dans notre émission ou encore nous poser une question sur notre répondeur au 3921 ou en privé sur le compte Instagram d'Europe 1.
Renault. 1990, Renault lance Renault Clio. Avec son design et son confort, elle a déjà tout d'une grande.
2022, Renault Clio E-Tech a toujours tout d'une Clio. L'hybride en plus. Et découvrez aussi Renault Clio à partir de 160 euros par mois.
Pour Renault Clio Essence Authentique SCE 65 à l'aile des 49 mois 40 000 km, premier loyer de 2500 euros sous condition de reprise. Réservé aux particuliers jusqu'au 30 novembre si à Cordiac, voire Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô patron, c'est cuit.
Pour Lidl ?
Raminon, pour nous et pour les crevettes, patron. En ce moment, la barquette de 190 grammes de crevettes ASC ail et fines herbes est à 3,99 euros.
Moins de 4 euros la barquette ?
Ah oui patron, moins 20%. On est mal.
Bah, tu l'as dit.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. 21 euros le kilo, transformé en France. Offre valable jusqu'au mercredi 16 novembre. Supermarché ouvert ce vendredi 11 novembre. Informations et horaires sur Lidl.fr. Pour votre santé, bougez plus. Europe 1, bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Vous écoutez Bienfait pour vous, votre émission Feel Good Mieux Vivre, et c'est tous les matins sur Europe 1 jusqu'à midi. On décortique les conséquences du déni, le fameux syndrome de l'autruche. Est-ce que ça vous parle d'ailleurs? Vous avez déjà, je ne sais pas, moins fui une réalité qui était pourtant juste devant vos yeux? Eh bien, on analyse ce sujet avec le docteur Serge Tisseron ce matin. Je rappelle que vous êtes psychiatre, docteur en psychologie et auteur du livre Le déni ou la fabrique de l'aveuglement, sorti chez Albin Michel. Alors, le déni, c'est quelque chose qu'on fait inconsciemment ou alors, au contraire, c'est un choix, Serge Tisseron?
Alors, ça devient un choix au fur et à mesure que le déni s'installe. Alors, comme j'évoquais tout à l'heure, au début, on se contente d'ignorer une information, on observe quelque chose, mais on se dit non, j'ai dû me tromper, j'ai dû mal voir, j'ai dû mal entendre. Ça, on est dans l'ignorance. Puis, la réalité, elle revient. Alors, si on ne l'accepte pas, eh ben, on va devoir dans un premier temps, chercher des raisons qui s'oppose à ce qu'on voit ou à ce qu'on entend. Donc, j'ai pas bien entendu pour telle raison. Voilà, et puis, petit à petit, on franchit un degré de plus et on construit une croyance qui va carrément s'opposer à la réalité. Et on brode autour de cette croyance. Donc là, ça devient une construction volontaire. Mmh. Et une construction volontaire, petit à petit, dans laquelle ce qui importe, finalement, c'est plus la réalité, c'est moi. C'est-à-dire, je ne vais pas renoncer à ce que j'ai cru si longtemps.
Est-ce que c'est pas quand même naturel, finalement, pour nous, les êtres humains, d'être dans le déni? Je crois que vous dites que notre cerveau, quelque part, est prédisposé à ça. Vous parlez de biais cognitif. Qu'est-ce que c'est, concrètement?
Alors, en effet, rien n'existe chez l'être humain qui n'ait d'abord été conçu par l'évolution pour le protéger. Alors après, vous savez, c'est comme le mécanisme physiologique de l'inflammation. L'inflammation, c'est très très bien, vous avez une plaie, il y a une inflammation, elle contribue à réparer la plaie, mais des fois, on sait bien que l'inflammation, elle devient une maladie à elle toute seule. Donc le déni, c'est pareil. Le déni, dans l'histoire de l'évolution, c'est un mécanisme qui nous permet de refuser provisoirement la réalité parce qu'elle est trop violente, elle est trop brutale. Tout le monde a cette expérience, où tout le monde l'a eu autour de lui. Quand on nous annonce une maladie grave, une intervention chirurgicale qu'on n'avait pas attendue, on se dit, mais peut-être il y a une alternative, peut-être le médecin s'est trompé, il faut que j'envoie un autre. Donc dans un premier temps, on dit non, c'est pas possible. Mmh. Voilà. Et puis dans un deuxième temps, on se met en colère, non, quand même, pourquoi ça tombe sur moi? Puis petit à petit, on arrive à accepter ça dans le meilleur des cas. Donc vous voyez, le déni, d'abord, il permet de se protéger d'une information trop violente, trop brutale, d'un changement du monde trop violent, trop brutal, et puis on l'apprivoise à son rythme. Le problème, c'est que plus on commence à refuser que la réalité soit ce qu'elle est, et plus on trouve des gens qui sont d'accord pour conforter notre déni parce qu'ils le partagent, et plus on va s'installer dedans, et plus on risque de devenir un militant du déni, c'est-à-dire de vouloir convaincre les autres, toujours plus de monde, que c'est nous, que c'est moi qui ai raison, que c'est notre groupe qui a raison. Et là, il devient très très compliqué de dégager les gens, de cette posture, les gens qui s'installent.
Alors dans votre livre, Serge Tisseron, vous parlez du déni de compétence. Est-ce que vous dites d'ailleurs que c'est très répandu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit?
Oui, alors c'est le fait de contester à quelqu'un qui puisse avoir des compétences dans le domaine dont il parle. Mm-hmm. Alors aujourd'hui, on voit bien ça sur Internet. Hein, souvent, dans les échanges sur Internet, quelles que soient les qualités scientifiques de celui qui s'exprime, il y a toujours des gens qui n'ont pas vraiment une bonne connaissance du sujet, mais qui vont lui chercher des poux dans la tête. Mm-hmm. Mais bon, le déni de compétence, c'est quelque chose, Julia, dont vous avez dû entendre parler par rapport au déni de compétence des femmes. Voilà.
Mm-hmm, bien sûr. Non, mais je pensais moi à ça, voilà, essentiellement. Voilà.
Mais je voulais pas braquer tout de suite le projecteur là-dessus, je pensais que vous y pensiez.
Oui, j'y pensais très largement.
Voilà. Donc, ça a été bien analysé, le fait que beaucoup d'hommes pensent en effet que les femmes sont, a priori, parce qu'elles sont des femmes, moins compétentes qu'eux dans différents domaines, et donc ils peuvent se retrouver à expliquer à des femmes des choses que pourtant elles connaissent mieux qu'eux.
Oh là là,
donc, un déni de compétence, voilà, déni à quelqu'un de compétence. Mais ce qu'il faut comprendre dans cette histoire, c'est que lorsque on s'installe vis-à-vis d'une personne, dans un déni de l'une de ses compétences, de ses qualités, de ses préoccupations, on ne veut pas écouter ce qui l'intéresse, ce qui la préoccupe, ce qui l'inquiète, et bien à ce moment-là, cette personne va être incitée à nous opposer un contre-déni, c'est-à-dire à s'opposer à nous, peut-être parfois de façon un peu, d'une façon qu'on ne comprend pas, qui paraît un peu brutale, un peu absurde, voilà, ou faire la nunuche, voilà, et tout ça pour nous emmerder. Mm-hmm. Et du coup, on dit, mais ce n'est pas possible. Et en fait, c'est une réaction à notre propre déni de compétence qu'on lui a opposé.
Et Serge Tisseron, je crois que ce déni de compétence, vous dites qu'il est très fréquent, notamment dans les relations parents-enfants. Mais alors, comment ça se manifeste dans ce cadre-là?
Alors, tous les parents qui ont eu des adolescents et qui nous écoutent vont tout de suite reconnaître la
Julien
situation.
Julien, je crois, un spécimen. Un beau spécimen à la maison.
D'accord, ben j'en ai un aussi. Voilà, donc l'ado, on lui oppose des jugements sensés. Par exemple, tu fais du skate, prends ton casque, c'est dangereux et tout. Et il vous dit, non, c'est pas dangereux. On dit, mais si, c'est dangereux. Alors d'ailleurs, quelques années plus tard, il vous dira, c'est dangereux, il mettra son casque. Mais à l'adolescence, il vous dit non. Alors vous dites, mais ça va pas, quoi, mais qu'est-ce qui t'arrive, tu peux... Mais les ados, c'est terrible. Et puis, tout d'un coup, ben, il faut quand même que vous compreniez que votre ado, il a l'impression que vous êtes dans le déni. Alors pourquoi? Parce que c'est très compliqué pour les parents d'accepter que un ado, il change si vite, qu'en un an, parfois en 6 mois, il n'est plus le même. Et du coup, lui, il le sent qu'il n'est plus le même et il sent qu'il évolue vers l'âge adulte. Il a l'impression que le parent n'arrive pas à reconnaître cette évolution. Il a l'impression que le parent est dans le déni de sa maturation, dans le déni de son évolution. Alors, déni contre déni, eh ben, il se braque sur un petit truc et puis il vous fait tourner en bourrique. Mais ce qui est là derrière, c'est qu'il veut que vous reconnaissiez qu'il est grand.
Moi, j'ai le même problème, mais juste pour pas mettre le manteau. Il me dit, mais non, il fait pas froid. Mais si, il fait froid. Je vais jamais mettre sa veste, si c'est mieux que moi, s'il fait froid ou pas.
C'est exactement ça.
C'est ça, hein, c'est le déni de température.
C'est ça, le déni de température.
Mais aussi, quand on entend le mot déni, on l'associe presque automatiquement au mot grossesse. Mais est-ce qu'on peut vraiment parler de déni dans ces cas précis?
Oui, alors tout à fait. Alors, le déni de grossesse montre bien qu'il y a un moment où il faut en sortir, puisque la grossesse dure en 9 mois, en principe. Voilà, une femme qui est dans le déni de grossesse, si elle accouche, elle peut difficilement continuer à être dans le déni de grossesse.
La réalité s'impose.
Voilà,
quoi.
La réalité s'impose. Donc, comme disait notre humoriste au début, ça peut être quelques secondes avant l'accouchement, quelques minutes, quelques heures, quelques jours. Mais en tout cas, vous voyez, c'est un déni qui doit prendre fin. Et de là, on voit bien que plus le déni se prolonge et plus c'est problématique à la fois pour la mère et pour l'enfant.
On nous avait dit tout à l'heure que le déni, il était là aussi peut-être à l'origine pour nous protéger. Vous disiez, face à une maladie, face à un deuil, on passe souvent par cette étape-là du déni. Je prends l'exemple du déni dans le deuil, mais c'est une phase importante même, je crois, pour accepter un deuil. D'abord,
c'est une phase,
de la refuser, cette
c'est
mort.
C'est une phase tout à fait normale.
Et Elisabeth et Kubler... saine, même, non? On peut dire saine?
Pardon, saine. Oui, tout à fait. Elisabeth Kubler-Ross, qui a beaucoup travaillé sur l'annonce des maladies graves à des patients, a décrit le déni comme la première phase normale. Dit le déni, puis la colère, puis la négociation, puis la dépression, et puis l'acceptation. Donc, ce que je montre dans mon bouquin, c'est que ces phases que définies par Kubler-Ross, elles nous permettent aussi de comprendre les évolutions par lesquelles passent, non plus seulement des individus, mais des populations. Je pense que pour sortir du Covid, de la Covid, on a un peu traversé aussi ces mêmes phases, et que le déni, lorsqu'on nous a annoncé la Covid, c'était une réaction tout à fait compréhensible et normal dans le fonctionnement humain.
Quand vous parlez du deuil, moi je pense aussi à tout ce qui est rupture amoureuse, c'est pas un peu le même cheminement au départ ?
Oui.
Quand on se fait larguer, c'est
ouais,
ça
ouais, on n'y croit pas, en fait. Non, mais parfois, non. Ça,
parfois, on est soulagé aussi.
Ouais. Non, mais moi, j'ai déjà vécu ça. Enfin, des amis, hein, des proches, évidemment.
Je te quitte, Julia. Mais non, non, pas du tout.
Mais il y a une phase où on n'arrive pas à l'accepter, non?
Oui, il y a une phase où on n'arrive pas à l'accepter. On peut être persuadé que le conjoint, la conjointe va revenir. Ouais. Voilà, que c'est temporaire. On se triture la tête pour savoir si on n'a pas fait une faute qu'on pourrait réparer. Voilà. Et puis, il y a un moment où ils vont sortir, Julia.
C'est ça. La fameuse phase de réalité. Eh bien, merci beaucoup Serge Tisseron. On revient avec vous dans quelques minutes pour continuer à explorer comment se construit le déni, un phénomène qu'on peut subir seul, mais aussi de façon collective. C'est ce qui s'est passé à pas mal de niveaux, d'ailleurs, pendant la pandémie du Covid. On va y revenir dans un instant. Alors, restez bien à l'écoute d'Europe 1.
Bien fait pour vous sur Europe 1.